Lettre d'un innocent, écrite par le capitaine Alfred Dreyfus. Dixième partie. Le 5 mars 1896. Ma chère Lucie, je n'ai pas encore reçu tes chères lettres de janvier. Quelques lignes seulement pour t'envoyer l'écho de mon immense affection. T'écrire longuement, je ne le puis. Mes journées, mes heures s'écoulent, monotones, dans l'attente angoissante, énervante de la découverte de la vérité du misérable qui a commis ce crime infâme. Te parler de moi, à quoi bon? Mes souffrances, tu les comprends, tu les partages. Elles ne peuvent avoir qu'un terme comme les tiennes, comme celle de tous les nôtres, quand la lumière pleine et entière sera faite, quand l'honneur nous sera rendu. C'est vers ce but que doivent tendre toutes vos énergies, toutes vos forces, tous vos moyens. Je souhaite d'apprendre que ce but est bientôt atteint, que ce martyre épouvantable de toute une famille a un terme. Mon corps, ma santé, tout cela me laisse bien indifférent. Tout mon être n'est animé que d'une seule pensée, que d'une volonté qui me fait vivre, voir entre mes enfants et toi le jour où l'honneur me sera rendu. C'est dans ta pensée, dans celle de nos enfants adorés, que je repose ma tête, parfois trop fatigué par cette tension continuelle, par cette fièvre d'impatience, par cette inactivité terrible, sans un moment de diversion. Si donc nous ne pouvons nous empêcher de souffrir, car jamais êtres humains qui placent l'honneur au-dessus de tout n'ont été frappés de telle sorte, je te crie toujours courage, et courage pour marcher à ton but. La tête haute, le cœur ferme, avec une volonté inébranlable, jamais défaillante. Tes enfants te disent ton devoir, comme ils me donnent ma force. Espérons, comme le dit ta mère, que nous pourrons bientôt, dans les bras les uns des autres, essayer d'oublier ce martyr effroyable, ces mois si tristes et si décevants, et revivre en nous consacrant à nos enfants. Je t'embrasse, comme je t'aime, de toutes mes forces, ainsi que nos chers enfants. Ton dévoué, Alfred. Baisers à tous. Le 26 mars 1896. Ma chère Lucie, j'ai reçu le 12 de ce mois tes bonnes lettres de janvier, si impatiemment attendues chaque mois, ainsi que toutes celles de la famille. J'ai vu avec bonheur que ta santé, ainsi que celle de tous, résiste à cette affreuse situation, à cet horrible cauchemar dans lequel nous vivons depuis si longtemps. Quelle épreuve aussi horrible qu'imméritée pour toi, ma bonne chérie, qui méritait d'être si heureuse. Oui, j'ai des moments terribles où le cœur n'en peut plus des blessures qui viennent aviver une plaie déjà si profonde, où mon cerveau n'en peut plus sous le poids de pensées aussi tristes, aussi décevantes. Aussi, quand le courrier m'arrive, après une attente longue et angoissante, que je ne reçois pas encore la nouvelle de la découverte de la vérité de l'auteur de cet infâme et lâche forfait, oh, j'ai à l'avance une déception poignante, profonde. Mon cœur se déchire, se brise devant tant de douleurs aussi longues, aussi imméritées. Je suis un peu comme le malade sur son lit de torture, qui souffre le martyre, qui vit parce que son devoir l'y oblige, et qui demande toujours à son médecin « Quand finiront mes tortures ?» Et comme le médecin lui répond toujours « Bientôt, bientôt !» Il finit par se demander « Quand sera ce « bientôt ?» et voudrait bien le voir venir. Il y a longtemps que tu me l'annonces, mais du découragement, oh, cela jamais, si atroces que soient mes souffrances, le souci de notre honneur plane au-dessus d'elles. Ni toi, ni aucun n'auront jamais le droit d'avoir une minute de lassitude, une seconde de faiblesse, tant que le but ne sera pas atteint, tout l'honneur de notre nom. Pour moi, quand je me sens sombrer sous tout réuni, quand je sens mon cerveau s'échapper, je pense à toi, à nos chers enfants, au déshonneur immérité jeté sur notre nom. Je me raidis alors dans un effort violent de tout l'être et je me crie à moi-même, « Non, tu ne plieras pas sous la tempête !» Que ton cœur soit en lambeaux, ton cerveau broyé, tu ne succomberas pas avant d'avoir vu pour tes chers enfants le jour où l'honneur leur sera rendu. C'est pourquoi, chère Lucie, je viens te crier toujours à toi comme à tous, courage, et plus que du courage, de la volonté. Oh, silencieuse, très silencieuse, car les paroles ne servent à rien, mais hardie, audacieuse, pour marcher au but. La vérité tout entière, la lumière sur ce sinistre drame, tout l'honneur enfin de notre nom. Les moyens, il faut les employer tous, de quelque nature qu'ils soient. Tous ceux que l'esprit peut suggérer pour avoir l'énigme de ce drame. Le but est tout. Lui seul est immuable. Je veux que nos enfants entrent dans la vie, la tête haute et fière. Je veux t'animer de ma suprême volonté. Je veux te voir aboutir enfin. Et il en serait temps, je te le jure. Je souhaite que tu puisses m'apprendre bientôt quelque chose de certain, de positif. Oh, pour tous deux, ma chère Lucie. T'écrire plus longuement ou te parler d'autre chose, sinon de ma grande et profonde affection pour toi, je ne le puis, car ma tête est trop fatiguée par cette épreuve la plus terrible, la plus cruelle que puisse supporter un cerveau humain. Notre cher petit Pierre me demande de lui écrire. Ah, je n'en ai pas la force. Chaque mot ferait jaillir un sanglot de ma gorge, et je suis obligé de me raidir dans ma douleur pour résister, pour être présent le jour où l'honneur nous sera rendu. Embrasse-le longuement pour moi, ainsi que ma chère petite Jeanne. Ah, mes chers enfants, puise en eux ta force invincible. Je t'embrasse de toutes mes forces comme je t'aime, Alfred. Embrasse tes chers parents, toute la famille pour moi. Ma santé est bonne. J'ai reçu au début du mois de ta part une dizaine de colis de vivres
et les tricots de laine.
Merci pour tes touchantes attentions. Je n'ai encore reçu aucun des envois de revues et de livres que tu m'annonçais par tes lettres de septembre, décembre et janvier. Aucun n'est encore arrivé à Cayenne. Veux-tu être assez bonne pour t'occuper de ces envois de manière qu'ils me parviennent par le courrier, soit que tu les adresses toi-même directement pour moi à M. le directeur du service pénitentiaire à Cayenne, soit qu'ils soient adressés par le ministère à tes frais. Le 26 mars 1896, soir. Chère Lucie, avant de t'envoyer la lettre que je t'avais écrite, je relisais pour la centième fois peut-être tes chères lettres, car tu peux t'imaginer ce que peuvent être mes longues journées, mes longues nuits, les bras croisés, n'ayant même rien à lire en tête à tête avec mes pensées, ne me soutenant que par la force du devoir, pour te soutenir par ma présence, pour voir enfin le jour où l'honneur nous sera rendu. Tu me demandes, chère Lucie, d'attendre avec calme le jour où tu pourras m'annoncer la découverte de la vérité. Demande-moi d'attendre tant que je pourrai, mais avec calme. Oh, cela non,
Quand on m'a arraché tout vivant le cœur de la poitrine,
quand je me sens frappé dans mon bien le plus précieux, dans toi, dans mes enfants, quand mon cœur nuit et jour hurle de douleur, sans une minute de repos, quand depuis 18 mois, je vis dans un cauchemar atroce. Mais alors, ce que je veux, avec une volonté farouche, qui m'a fait tout supporter, qui m'a fait vivre, ce n'est pas protester de mon innocence par tes paroles, mais que tu marches, que vous marchiez tous, par n'importe quel moyen, à la conquête de la vérité, de la lumière sur cette sinistre histoire. Tout notre honneur, enfin. Ce sont les paroles que je t'ai dites avant mon départ, il y a déjà plus d'un an. Hélas, ce n'est pas un reproche que je veux te faire, mais je vous trouve bien long dans cette mission suprême, car ce n'est pas vivre que vivre sans honneur. Aussi, dans mes longues nuits de torture, souffrant le martyre, combien souvent me suis-je dit « Ah, comme j'aurais eu l'énigme de cet horrible drame, par n'importe quel moyen, eussé-je dû finalement mettre le couteau sur la gorge aux complices misérables, si insaisissables qu'ils soient, de ce vil criminel. Et plus souvent encore, me suis-je écrié, n'y aura-t-il donc personne ayant assez de cœur et d'âme, ou assez d'habileté pour leur arracher la vérité, faire cesser ainsi ce martyre effroyable d'un homme et de deux familles? Ah, je ne sais que ce ne sont que les rêves d'un homme qui souffre horriblement, mais que veux-tu? Tout cela est trop horrible, trop atroce. Cela déroute trop ma raison, mes croyances en la loyauté, en la droiture, car il y a une loi morale qui domine tout, passion et haine. C'est celle qui veut la vérité partout et toujours. Et puis quand ma pensée se reporte sur mon passé, sur ma vie tout entière, et que je me vois là, oh, alors c'est horrible, la nuit se fait en moi toute sombre, et je voudrais fermer les yeux, ne plus penser. C'est dans ta pensée, dans celle de nos chers petits, dans ma volonté de voir la fin de cet horrible drame, que je retrouve la force de vivre, de me maintenir debout. Voilà mes pensées, voilà mes nuits, ma chère et bonne Lucie, et c'est pour répondre à ta question que je t'ouvre ainsi toute mon âme. Dis-toi donc que je souffre horriblement comme toi, comme vous tous, que nos tortures morales à tous sont les mêmes, qu'elles sont atroces, qu'elles ne peuvent avoir qu'un terme, c'est la pleine lumière sur cette sinistre affaire, qu'il faut donc marcher tous à ce but suprême, avec une activité de tous les jours, de toutes les heures, avec une volonté farouche et indomptable, avec ce sentiment qui renverse tous les obstacles. C'est qu'il s'agit de notre honneur et qu'il nous le faut. Et maintenant, je vais me coucher. Essayez de reposer un peu mon cerveau, ou plutôt rêver à toi, à nos chers enfants. Le 5 avril, Pierre aura 5 ans. Dis-toi que ce jour-là, tout mon cœur, toutes mes pensées, mes pleurs, hélas aussi, auront été vers lui, vers toi. Et je termine en souhaitant que tu puisses bientôt m'annoncer la fin de cet infernal supplice et en t'embrassant de tout mon cœur, de toutes mes forces, comme je t'aime. Ton dévoué, Alfred. Le 5 avril 1896. Ma chère Lucie, je viens de recevoir à l'instant tes chères lettres de février ainsi que toutes celles de la famille. À ton tour, ma femme chérie, tu as subi les atroces angoisses de l'attente de nouvelles. J'ai connu ces angoisses. J'en ai connu bien d'autres. J'ai vu bien des choses décevantes pour la conscience humaine. Eh bien, je viens te dire encore, qu'importe! Tes enfants sont là, vivants. Nous leur avons donné la vie. Il faut leur faire rendre l'honneur. Il faut marcher au but, les yeux uniquement fixés sur lui, avec une volonté indomptable, avec le courage que donne le sentiment d'une nécessité absolue. Je te disais dans une de mes lettres que chaque journée ramenait avec elle les angoisses de l'agonie. C'est bien vrai, Quand arrive le soir, après une lutte de tous les instants contre les bouillonnements de mon cerveau, contre la déroute de ma raison, contre les révoltes de mon cœur, j'ai une dépression cérébrale et nerveuse terrible, et je voudrais fermer les yeux pour ne plus penser, pour ne plus voir, pour ne plus souffrir, enfin. Il faut alors que je fasse un violent effort de volonté pour chasser les idées qui me tirent bas, pour amener ta pensée, celle de nos enfants adorés, et pour me redire encore, si atroce que soit ton martyre, il faut que tu puisses mourir tranquille, sachant que tu laisses à tes enfants un nom fier et honoré. Si je te rappelle cela, c'est simplement pour te dire encore quelle volonté je dépense dans une seule journée, parce qu'il s'agit de l'honneur de notre nom, de celui de nos enfants, que cette même volonté devrait vous animer tous. Je veux te redire aussi ce que je souffre de tes tortures, des vôtres à tous, ce que je souffre pour nos enfants, et qu'alors, à toutes les heures du jour et de la nuit, je te crie à toi et à tous, dans l'emportement de ma douleur extrême. Marchez à la conquête de la vérité, hardiment, en gens honnêtes et crânes, pour qui l'honneur est tout. Ah, les moyens peu m'importent, il faut en trouver quand on sait ce qu'on veut, quand on a le droit et le devoir de le vouloir. Cette voix, tu dois l'entendre à tout moment, à travers l'espace, elle doit animer ton âme. Je me répète toujours, chère Lucie, c'est que ma pensée est une, comme la volonté qui me fait tout endurer. Je ne suis ni impatient, ni un résigné. Dis-toi bien tout cela. Je veux la lumière, la vérité, notre honneur, enfin, pour la France entière, avec toutes les fibres de mon être. Et cette volonté suprême doit t'inspirer, à toi comme à tous, tous les courages comme toutes les audaces, pour sortir enfin d'une situation aussi infâme qu'imméritée. De grâce ou de faveur, tu n'en as à demander à personne. Tu veux la lumière et il te la faut. Plus les forces décroissent, car les nerfs finissent par être complètement ébranlés par tant de secousses épouvantables, plus les énergies doivent grandir. Jamais, jamais, jamais. Et c'est là le cri profond de mon âme. On ne se résigne au déshonneur quand on ne l'a pas mérité. Aujourd'hui, notre cher petit Pierre a 5 ans. Tout mon cœur, toutes mes pensées vont vers lui, vers toi, vers nos chers enfants. Tout mon être vibre de douleur. Que puis-je ajouter, ma chère Lucie? Mon affection pour toi, pour nos enfants, tu la connais. Elle m'a fait vivre, elle m'a fait endurer ce que je n'aurais jamais accepté. Elle me donne la force de tout endurer encore. Tu dis que nous approchons du terme de nos douleurs. Je le souhaite de toutes mes forces, car jamais êtres humains n'ont souffert pareillement. Je t'ai déjà écrit longuement, il y a une dizaine de jours, par le courrier français. Je t'embrasse comme je t'aime, de toutes mes forces, ainsi que nos enfants. Ton dévoué, Alfred. J'ai reçu, il y a quelques jours, l'envoi de revues et de livres du mois de novembre. Leur arrivée tardive provient de ce que l'envoi est fait par petite vitesse, c'est-à-dire par voilier. J'en éprouve quelque soulagement. Cependant, mon cerveau est si ébranlé, si fatigué par toutes ces épouvantables secousses que je ne puis apporter d'attention à quoi que ce soit. Tes autres envois finiront par me parvenir quelques jours. Embrasse tes chers parents, tous les nôtres pour moi. Je leur ai écrit d'ailleurs par le courrier français. Le 26 avril 1896. Ma chère Lucie, dans les longues et atroces journées dont s'est composé tout ce mois, j'ai lu et relu bien souvent tes chères lettres de février. Mon cœur a saigné des angoisses que tu as subi durant ce long mois, dont chaque mot dans tes lettres portait la trace. On sentait que tu contenais les frémissements de ton être, que tu te retenais pour ne pas laisser déborder ta douleur, et dans un effort de ton cœur aimant et dévoué, tu trouvais encore la force de me crier « Oh, je suis forte !» Oui, sois forte, car il le faut. Une de ces nuits, je rêvais à toi, à nos enfants, à notre supplice, à côté duquel la mort serait douce. J'en ai hurlé de douleur dans mon sommeil. Ma souffrance est parfois si forte que je voudrais m'arracher la peau pour oublier dans une douleur physique cette douleur morale trop violente. Je me lève le matin avec l'effroi des longues heures du jour, en tête à tête avec mon cerveau depuis si longtemps. Je me couche le soir avec l'épouvante des heures sans sommeil. Tu me demandes de te parler longuement de moi, de ma santé. Tu dois comprendre qu'après les tortures subies, supportant aujourd'hui une vie atroce, qui ne me laisse un moment de repos, ni de jour, ni de nuit, mes forces ne sauraient être brillantes. Le corps est brisé, les nerfs sont malades, le cerveau est broyé. Dis-toi simplement que je ne tiens debout dans l'acception absolue du mot, que parce que je le veux pour voir entre toi et nos enfants le jour où l'honneur nous sera rendu. Tu te demandes parfois dans tes heures de calme pourquoi nous sommes ainsi éprouvés. Je me le demande à tout moment et je ne trouve pas de réponse. Nous nous trompons mutuellement, chère Lucie, en nous recommandant tour à tour le calme et la patience. Notre affection essaie en vain de nous cacher, l'un à l'autre, les sentiments qui agitent nos cœurs. À sentir ce que j'éprouve quand je t'écris, le cœur vibrant de douleur et de fièvre, je sais trop bien ce que tu éprouves quand tu m'écris. Non, disons-nous simplement que si nous vivons les cœurs blessés et pantelants, les âmes frémissantes de douleur, c'est qu'il y a un but suprême qu'il faut atteindre, coûte que coûte, tout l'honneur de notre nom, celui de nos enfants, et le plus tôt possible, car ce n'est pas vivre pour des gens de cœur que de vivre dans une situation pareille, dont chaque moment est une torture. Bien souvent aussi, j'ai voulu te parler longuement de nos enfants, mais je ne le puis. Chaque fois, une colère sourde et âpre envahit mon cœur à la pensée de ces chers petits êtres frappés dans leur père, innocents d'un crime aussi abominable. Ma gorge se serre, les sanglots m'étouffent, mes mains se tordent de douleur de ne rien pouvoir faire pour eux, pour toi, que de lutter pour vivre depuis si longtemps dans une situation pareille. Je ne puis donc, chère Lucie, que te redire courage et volonté, activité aussi, car les forces humaines ont des limites. D'ailleurs, je t'ai écrit de très longues lettres par le précédent courrier. J'ai écrit aussi à tes chers parents, à mes frères et sœurs. J'espère qu'elles auront encore enhardi vos courages, animé vos âmes du feu qui consume la mienne, qui me donne encore la force de tenir debout. Tu me dis aussi que tu as de bonnes raisons de croire que cette atroce situation ne sera plus de longue durée. Ah, je souhaite de toute mon âme que cette fois, ton espoir ne soit pas trompé, que tu puisses bientôt m'annoncer quelque chose de certain, de positif, car c'est vraiment trop souffrir. Que puis-je ajouter, ma chère Lucie? Les heures pour moi se ressemblent dans leur atrocité, ne vivant que par ta pensée, celle des enfants, dans l'attente d'un dénouement, d'une situation qui n'a déjà que trop duré. Je t'embrasse de tout cœur, comme je t'aime, ainsi que nos chers enfants, en attendant que j'aie le bonheur de recevoir tes chères lettres, toujours si impatiemment attendues. Ton dévoué, Alfred. Baiser à tous. Le 7 mai, 1896. Ma chère Lucie, quelques instants avant de recevoir tes chères lettres, je venais de subir une avanie mesquine, mais qui déchire quand on a le cœur aussi ulcéré. Je n'ai pas, hélas, l'âme d'un martyr. Te dire que je n'ai pas parfois envie d'en finir, de mettre un terme à cette vie atroce, ce serait mentir. N'y vois pas trace de découragement. Le but est immuable. Il faut qu'il soit atteint, et il le sera. Mais à côté de cela, je suis aussi un être humain qui supporte le plus épouvantable des martyrs, pour un homme de cœur et d'honneur, et qui ne le supporte que pour toi, pour nos enfants. Chaque fois qu'on retourne le fer dans la plaie, le cœur hurle de douleur. J'en ai pleuré, mais assez parlé de cela. Je te disais donc que je viens de recevoir tes chères lettres de mars, ainsi que toutes celles de la famille, et à côté de la joie de te lire, j'ai toujours cette déception que tu dois bien comprendre, de ne pas apercevoir encore le terme de nos tortures. Comme tu dois souffrir, ainsi que nous tous, de ne pas pouvoir hâter le moment où l'honneur nous sera rendu, où les misérables qui ont commis le crime infâme seront démasqués. Je souhaite que ce moment soit proche et qu'il ne tarde pas trop. Merci des bonnes nouvelles que tu me donnes de nos chers enfants. C'est dans leur pensée, dans la tienne, que je puise la force de résister. Tu dois bien penser que les souffrances, le climat, la situation ont fait leur œuvre. Il me reste la peau, les os et l'énergie morale. J'espère que cette dernière me conduira jusqu'au bout de nos souffrances. Tu me parles aussi de choses matérielles que je pourrais te demander. Tu sais que la vie matérielle m'a toujours laissé indifférent, aujourd'hui plus que jamais. Je ne t'ai demandé que des livres, et malheureusement, j'en suis toujours à mon envoi de novembre. Veux-tu être assez bonne pour cesser les envois de vivre? Le sentiment qui m'inspire cette demande est peut-être puéril, mais tes envois sont, suivant le règlement, soumis à une visite minutieuse, et il me semble chaque fois qu'on t'applique un soufflet sur la joue, à toi. Et mon cœur saigne, et j'en frémis de douleur. Non, acceptons la situation atroce qui nous est faite. Ne cherchons à l'atténuer par aucun souci d'ordre matériel. Mais disons-nous qu'il nous faut ce coupable, qu'il nous faut notre honneur. Marchez donc à ce but d'un commun accord, d'une commune volonté immuable. Cherchez à l'atteindre le plus vite possible et ne vous souciez de rien autre. Moi, de mon côté, je résisterai tant que je pourrai, car je veux être là, présent, le jour de bonheur suprême où l'honneur nous sera rendu. Dis-toi bien que l'on peut plier sous certains malheurs, que l'on peut accepter dans certaines situations des consolations banales. Mais lorsqu'il s'agit de l'honneur, il n'y a aucune consolation, sinon un but à atteindre tant qu'on n'a pas succombé, seul le faire rendre. Donc, pour toi comme pour tous, je ne puis que vous crier du plus profond de mon âme, « Oh les cœurs! Pas de récrimination, pas de plainte, mais la marche immuable vers le but, le ou les coupables, et l'atteindre le plus tôt possible. » Comme je te l'ai déjà dit, il ne doit pas rester un seul Français qui puisse douter de notre honneur. Embrasse de tout ton cœur nos chers enfants pour moi et reçois pour toi 1000 baisers les plus tendres, les plus affectueux de ton dévoué, Alfred. Embrasse tes chers parents, tous les nôtres pour moi. Dans le courrier que je viens de recevoir, je n'ai pas trouvé de lettre de mes sœurs, excepté d'Henriette. J'espère que ces chères sœurs ne sont pas malades de ces émotions terribles et continuelle. Fin de la 10e partie des Lettres d'un innocent, écrite par le capitaine Alfred Dreyfus.